aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, la radio des Hautes-Garonne 91.3 et sur internet audeuradio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui nous parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre dernière émission de l'année 2024. Bien sûr, on se retrouvera après les fêtes, hein, ça va de soi. Et aujourd'hui, je reçois Fabrice Serrano qui va nous parler de son métier d'épithésiste. Bonjour Fabrice, comment ça va ?
Bonjour Valérie, mais ça va très bien. Un peu intimidé hein, pour la première et la dernière de l'année, mais pour moi, c'est la première.
Eh oui, toi, c'est ta première émission de radio. Mais bon, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Juste avant de lancer le sujet de l'émission, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Fabrice, je vis dans la région paloise et je suis donc épithésiste depuis maintenant 2010.
Alors, ça fait 14 ans.
Exactement.
J'étais en train de compter, mais les maths à 9h du matin, c'est compliqué. Hein. Ok, super, merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir jusqu'à nous. Mais on en reparlera après, parce que les épithésistes, ça ne court pas les rues.
Ah, vraiment ?
Non. Et du coup, on va faire notre première pause musicale tout de suite. On va écouter Santa Victoria de Quentin Kaiser. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Fabrice Serrano nous parle de son métier d'épithésiste. Donc avant la pause, nos auditeurs et nos auditrices ont pu faire ta connaissance, Fabrice. Mais du coup, je suis sûre qu'ils sont comme moi, épithésistes. Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Un épithésiste, c'est un prothésiste facial. C'est-à-dire que on réalise ce qu'on appelle donc des épithèses, qui sont des prothèses externes, amovibles. c'est-à-dire comme un dentier ou comme une paire de lunettes, qui est aussi
une prothèse.
Et qui viendra remplacer ce qu'on appelle une perte de substance. C'est-à-dire que parfois, la vie vous amène à subir soit un traumatisme, donc un accident, soit on rencontre un cancer qui n'est pas un cancer interne, mais un cancer cutané externe, et qui va venir altérer une partie du visage. À ce moment-là, les chirurgiens sont obligés d'enlever la tumeur, et bien souvent, il faut enlever au-delà de la tumeur pour être en marge de sécurité, ce qui fait qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle donc une perte de substance qui amène à être remplacée par une épithèse.
D'accord. Du coup, c'est une prothèse de peau ?
C'est une prothèse qui est réalisée en silicone et qui va essayer d'imiter au mieux la peau, oui.
Bah alors moi, je suis allée sur ton site, mais on en reparlera après. J'avoue, c'est super. Comment on devient épithésiste ?
Alors, on devient épithésiste par des rencontres, souvent, ou par des lectures dans des revues. Moi, j'étais prothésiste dentaire depuis l'âge de 18 ans, et je voyais passer de temps en temps, sur les revues spécialisées, de mon travail, de mon boulot, des articles sur les épithèses, sur les... Voilà. Et je voyais ça d'un œil lointain, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Comment... Pour moi, c'était presque une espèce de chimère inaccessible, quoi. Et en fait, pas du tout. Il a fallu que je rencontre un chirurgien un jour, lors d'un congrès, chirurgien maxillo, qui me dit, mais il y a des formations, on manque de gens formés sur le terrain, et est-ce que ça t'intéresse pas ? Et c'est comme ça que ça a démarré.
D'accord. Parce que c'est rare.
C'est rare parce que c'est exigeant. Donc on a sur le territoire à peu près une dizaine de laboratoires qui tentent de couvrir l'ensemble des besoins. Il y a des secteurs où il y a un désert total, hein, dire évidemment qui font moins rêver que d'autres certainement, hein, donc voilà, pour pas stigmatiser, mais enfin le centre France est très mal loti. Par exemple en Corrèze, en Creuse, il n'y a pas de professionnels. Voilà, donc on est une dizaine, on essaie de mettre en place des réseaux de travail pour pas que les patients soient en déshérence, mais c'est pas forcément évident.
Et oui, c'est sûr qu'avec 10, ça couvre pas toutes les régions, quoi.
Ça couvre les régions juste. Alors, à savoir qu'on a quand même besoin, pour vivre, on ne peut pas étendre le nombre de professionnels non plus, par exemple comme un kiné ou comme une infirmière. Les besoins sont moindres en quantité, et heureusement, hein, sinon ça voudrait dire qu'il y a des centaines de milliers de patients porteurs de cancer dermatocutané. Enfin,
oui.
Donc ce serait un peu dramatique. Donc non, on arrive pratiquement à couvrir le territoire. La problématique, elle est plus dans la qualité de formation aujourd'hui.
D'accord, mais on en reparlera après. Quels sont les patients, justement, qu'on t'adresse ? Et surtout, parce que vu que vous n'êtes pas nombreux, comment on fait le suivi ?
Eh bien, le suivi, il est extrêmement chronophage, et c'est là le problème. Il y a de trop nombreux laboratoires qui ne prennent pas le temps de suivre les patients. C'est ce qui va être le plus chronophage. Réaliser une prothèse, c'est à la portée de n'importe quel technicien qui est expérimenté et qui a appris son travail. Par contre, suivre les patients, les besoins, écouter les besoins de quelqu'un qui va rentrer chez lui et qui va se retrouver seul face à sa prothèse et la gérer, et l'usure de cette prothèse, parce que ce sont des prothèses qui s'usent. Si elles ne s'usent pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisées. Donc ça, c'est un problème, c'est un signe aussi. Quand on voit un patient qui arrive avec une prothèse qui est magnifique au bout de 2 ans, ça veut dire qu'elle est restée dans sa petite boîte.
D'accord. Ok. Et alors, la question là, qui brûle les lèvres, en fait, donc on a parlé des prothèses de peau, donc de la face. Comme beaucoup, moi, je regarde tout ce qui est séries télé, etc., où on voit justement, c'est sûr, des effets spéciaux. Mais du coup, est-ce que c'est pareil, donc ton métier et les effets spéciaux ? Est-ce que c'est exactement la même chose, la même façon de procéder ?
Alors, on pourrait utiliser des techniques un peu similaires de maquillage, certains matériaux, mais à la différence des équipes d'effets spéciaux, on ne vit pas avec les patients chez eux pour faire des raccords, des retouches. les maquilleurs professionnels pour les effets spéciaux, pour le cinéma, pour le théâtre, ils font des prothèses, ça arrive de faire des prothèses de visage, qui sont magnifiquement intégrées, mais qui sont dans un matériau éphémère. Donc on va avoir des mousses de latex, des choses comme ça, qui sont fragiles, qui ne peuvent pas être utilisées au quotidien de manière pérenne par un patient porteur. Donc nous, on va utiliser des matériaux normés médicales qui sont à la fois esthétiques, faciles d'utilisation et surtout pérennes dans le temps à l'utilisation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça dure plus que 3 minutes ou 4 minutes.
On est d'accord.
Parce que bon, les effets spéciaux, comme tu l'as dit, les maquilleurs et les maquilleuses sont là pour refaire les petites retouches avec leurs petits pinceaux, etc. Mais toi, malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas te permettre ça. Et la personne, elle est seule chez elle.
Elle est seule. Alors ça, c'est hyper important. En amont, il faut qu'on sache comment vit la personne. C'est-à-dire si elle est seule, en EHPAD, accompagnée, si elle est toujours mariée, si elle a des enfants qui s'occupent de... Les publics concernés sont quand même plutôt... On a une moyenne d'âge au-delà de 60 ans. Mais les cancers des voies aérodigestives, on va dire, de la face, on a de plus en plus de patients jeunes, avec un public qui est de l'ordre de 40-45 ans. Quoi.
Là, on parle de ceux qui sont atteints d'un cancer, mais par exemple... Il y a une époque un petit peu lointaine maintenant, enfin, pour les plus jeunes, ça fait un peu loin, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas nés, mais où il y a eu beaucoup de morsures de chiens. Donc, du coup, là aussi, on fait des petites prothèses...
Alors, les morsures de chiens, elles interviennent principalement chez les enfants.
Mais oui, c'est ça.
Et les enfants, on essaie quand même de les faire aller vers une reconstruction chirurgicale, d'accord ? Parce que ces prothèses, elles sont... parfois l'aboutissement d'un échec chirurgical, elles viennent parfois en complément d'une offre chirurgicale de reconstruction. Elles sont aujourd'hui, en tout cas, proposées aux patients sur un plateau équivalent qu'une reconstruction chirurgicale. Elles peuvent permettre aussi d'attendre une reconstruction. Donc chez les enfants, poser une prothèse, c'est compliqué. Parce que
ils vont grandir de toute façon. Donc,
alors la croissance n'est pas trop un problème. Ce qui va être un problème, c'est l'activité sportive, c'est comment on la fait tenir cette prothèse, parce que comme elles sont amovibles, il faut bien qu'elles tiennent sur le visage. Oui. Chez un enfant, on ne va pas poser des ancrages osseux. On utilise beaucoup d'implants comme pour les dents, mais on ne va pas le faire chez un enfant, on ne va pas proposer ça, ou très rarement. Donc ça sera obligatoirement une prothèse collée avec une colle cutanée, dermique, médical, mais ça veut dire que cet enfant qui va faire une activité sportive, qui va aller à l'école, qui va se chamailler avec ses camarades et tout, souvent ce sont des oreilles qui sont perdues lors de morsures de chien, c'est compliqué pour eux de les maintenir pour pas que ça tombe en classe, dans la cour, et on va pas rajouter un problème au problème, donc il faut vraiment que ce soit ciblé la demande pour les enfants. En termes de traumato, on va avoir plutôt un public ici dans le sud-ouest au moins. Malheureusement, de traumatisme balistique par arme à feu, parce qu'on est sur un territoire de chasseurs, avec donc des fusils de chasse accrochés au-dessus de toutes les portes de salon, sur des petites pattes de biche, et ce qui fait qu'un jour, un coup de folie, il se rend compte qu'il y a un problème dans son couple depuis bien longtemps, il vrille. Souvent, c'est les hommes qui font ce geste, on a très peu de femmes qui font ce geste-là, mais donc nous, on se retrouve avec des personnes qui sont complètement mutilées, comme un mutilé de guerre de la guerre de 14. Et donc, ils sont reconstruits au mieux par les équipes chirurgicales, mais derrière, il n'y a plus le choix de faire une prothèse.
Ok, merci pour ces précisions. Et on va passer à notre deuxième pause musicale. Alors, Mo Yaro de Las.
Toinga machi kerse wone ngo komom Haleluya rumani amomom Yali gelu melni amulo morom jëf ju bax ci mani ay borom ñu la tudé mani mo yaro saligay la ah xalé bi lé mani mo yaro saligay la ñu la tudé mani mo yaro saligay la ah xalé bi lé mani mo yaro kenn melni yow sayuma la sene xol bi dal ci yow ha mané yalla samla hey mané yalla samla doy nga ma ci kersé woné nga ko mom haleluya rumani am mom yalla gey lu melni amulo morom jeuf ju bax ci mani ay borom fula to de mani mo yaro saligay la akhale bi le mani mo yaro saligay la fula to de mani mo yaro saligay la akhale bi le mani mo yaro fula to de mani mo yaro saligay la akhale bi le mani mo yaro mane mo yaro saligay la akhale bile mane mo yaro
qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Fabrice Serrano nous parle de son métier d'épithésiste. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast sur le site de la radio ou de radio.fr dès la fin de l'émission, si nous n'avons pas de soucis techniques comme la semaine dernière. Avant la pause, tu nous as expliqué ton parcours, ton métier, etc. On a bien développé certaines choses, mais du coup, et puis surtout, tu nous as dit qu'en fait, ce n'était pas la même chose que le maquillage, on va dire, des effets spéciaux, puisque, évidemment, non. Toi, tu n'es pas avec ton pinceau de maquillage chez le patient. Alors moi, j'ai une question, parce que ça ne doit pas être évident, quand même, de se retrouver avec une prothèse comme ça sur soi. Est-ce qu'on a un suivi psychologique, en fait ?
Alors oui, il y a un suivi psychologique, si tant est que le patient ou la personne qui va porter cette prothèse accepte ce suivi.
Ah oui, on ne lui impose pas.
C'est jamais imposé. Il y a un parcours de prise en charge avant son... Je vais beaucoup parler de cancer parce que 90% oui. de mon activité est liée à des cancers de la peau. Donc, et au niveau de la face. Donc... il y a une phase qui s'appelle l'annonce, qui est hyper importante. Et à ce moment-là, bien souvent, alors il n'y a pas forcément toujours un psychologue dans l'équipe, mais il y a forcément une infirmière d'annonce qui est formée à ça et qui va essayer de rassurer un petit peu la personne parce qu'elle prend une bombe nucléaire sur le...
Ben, c'est pas évident.
Voilà. Ce jour-là, il est complexe. Donc, il y a un suivi. Il n'est pas forcément... on est toujours face à un problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire le manque de moyens. L'hôpital public n'a pas des moyens extensibles. Donc, il manque de psychosocio-esthéticiennes, par exemple, pour venir aider les gens à se maquiller une fois que la prothèse est en place, parce qu'on pourrait envisager énormément de choses. Ces prothèses sont des prothèses, sont des masques faciaux, petits ou grands, uniquement une zone, un nez, une oreille, un œil, ou parfois une face entière. Moi, j'ai des patients à qui j'ai réalisé plus des trois quarts de la face. Donc, ça veut dire quand ils enlèvent leur prothèse quand ils vont se coucher ou quand ils vont se faire leur toilette, eh bien, ils se démontent littéralement, quoi. D'accord ? Donc ça, il faut que... S'il n'y a pas de préparation psychologique, c'est impossible à tenir. Alors nous, on n'a pas ce rôle-là, mais on est sensibilisé à force de rencontrer ces gens, à un dialogue un peu spécifique avec eux, mais on ne peut pas prendre ce rôle-là. Ça ne fait pas partie de nos attributions.
Vous n'êtes pas psychologue ?
Pas du tout.
Voilà.
Mais on le devient.
On
forcément.
Le devient, on a l'écoute en tous les cas.
Oui,
mais,
oui.
Et oui, ça c'est compliqué parce que c'est vrai que ce que tu as dit, et pour moi en tous les cas, une fois que la prothèse elle était mise, elle était fixée et on n'en parlait plus. Sauf que tu viens de le dire, cette prothèse on l'enlève.
Et oui.
Et du coup, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je porte des lunettes normalement, mais à la radio je ne les mets pas. Mais c'est vrai que du coup, bon, les lunettes, ça fait partie du jeu, en fait. Pareil, si on a un dentier, bon. Mais s'imaginer avec une oreille en moins ou un nez en moins, c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est pas rentré dans les mœurs. Et souvent, les gens, depuis toujours, se cachaient plus ou moins. La prothèse, elle amène un retour à une vie sociale.
Mais oui,
c'est ça. Mais il faut qu'elle soit bien gérée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'ensemble des acteurs, que ce soit des personnels soignants, les paramédicaux, la famille, les amis, tout le monde doit s'y mettre pour que ces gens-là puissent revenir à une vie sociale normale, accepter leur mutilation, parce que c'est une mutilation. Cette profession, pour revenir dessus, elle est née après la guerre de 14, hein, donc c'est... c'était les gueules cassées, hein, ce qu'on appelait les gueules cassées,
mais
les
oui.
soldats. Aujourd'hui, les cancers ont remplacé les grenades, on va dire. Mais l'effet, au final, il est le même.
Il est le même.
Psychologique, physique. Et la mutilation, moi, c'est écrit sur mon site, en gros, elle n'est pas que physique, elle est surtout émotionnelle. Donc, on peut faire des choses, on peut aider les gens, mais évidemment, s'ils n'acceptent pas eux-mêmes leur problématique, on ne pourra pas résoudre... Ce n'est qu'une étape dans leur reconstruction.
Oui, c'est ça. Tu es un maillon de leur reconstruction.
Complètement.
Et puis, alors, moi, j'ai envie de te dire, quand on a parlé de ton métier comme ça, je me suis dit, c'est bien parce que les gens qui ont une prothèse, alors, malheureusement, c'est parce qu'il y a une raison derrière qui est triste pour eux, en tous les cas, et douloureuse. Mais le fait d'avoir cette prothèse... ils vont moins souffrir du regard des autres. Et aujourd'hui, on sait que le regard des autres fait souffrir énormément. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément tous dans la bienveillance. Et là, c'est bien triste, en fait. Mmh. Parce que cette personne-là, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas demandé à voir ça. Et elle doit vivre avec. Et je me dis que voilà, ça, c'est un beau métier parce qu'au moins... Tu leur permets, ou vous leur permettez, puisque voilà, vous êtes une dizaine, un peu plus dans le monde, mais voilà, ça permet au moins de moins souffrir, on va dire, parce que souffrir du regard des autres, on en souffre toujours, mais de moins souffrir de ça au niveau du visage. Et en plus, quand on parle de la prothèse du nez, et on le dit toujours, hein, c'est le nez au milieu de la figure,
c'est
on
ça.
Le voit en priorité, en fait. Quand on regarde les gens, c'est la première chose qu'on voit, c'est le nez. Mais il y a le reste aussi, et c'est vrai que le regard des autres fait énormément souffrir.
Mais pour que le regard des autres soit validé, c'est-à-dire que il y a plusieurs phases. Quand on pose une prothèse sur le visage de quelqu'un, il va avoir une phase de... soit ça va être extrêmement puissant positivement, soit il ne va pas se reconnaître, à prime abord. Et il va s'imaginer, ou elle va s'imaginer, que tout le monde va le voir. Alors que, quand on croise quelqu'un dans la rue, on fait un flou, en fait, en général. C'est-à-dire que le cerveau, quand il voit qu'il y a à peu près tous les éléments, il ne calcule pas, il ne va pas au détail.
Non.
La personne qui porte cette prothèse, ça dépend aussi de la localisation. Si c'est latéral, c'est-à-dire une oreille, il y a les cheveux, même si elle est invisible ou quasiment invisible, le porteur de cette prothèse va imaginer que tout le monde la voit dans un premier stade. Après, il va aller chercher, ou elle va aller chercher l'approbation aux yeux des autres. Donc, si c'est quelqu'un de connu dans la famille, ça va le rassurer, mais il va se dire oui, mais enfin, il dit ça pour me faire plaisir.
Oui, voilà, c'est.
Donc, il faut qu'il se fasse violence pour aller se mettre en danger face à des gens qu'il ne connaissent pas. Et il n'y a que là. À ce moment-là, si le public, la société ne voit pas, ne les voit pas, ils deviennent donc invisibles comme tout un chacun,
ouais.
C'est OK, ça va, c'est validé là. Mais jusqu'à ça, c'est compliqué. Donc pour qu'on arrive à ça, il faut qu'il y ait un suivi, il faut que les prothèses elles soient reprises, refaites, réalisées. Et pour ça, ça demande du temps, ça demande un engagement énorme, et c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Parce que fabriquer une prothèse pour aujourd'hui dans un laboratoire de prothèses orthopédiques ou autres, c'est quelque chose qui est faisable, mais la refaire, la reprendre, écouter le patient des fois 2-3 fois par semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quand il le met, ça lui pince la peau à cet endroit-là, puis quand il mange, ça bouge, et puis etc, etc, etc. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. La face, c'est le miroir de l'âme.
Oui.
C'est ce qu'on montre à la société. Ma profession, elle est d'une complexité sans nom. Donc on ne peut pas nous confier des patients non préparés en disant allez, vous allez aller voir M. Serrano ou M. Richon ou M. Blanc, peu importe, n'importe quel autre professionnel, vous allez voir, c'est formidable, il va vous faire quelque chose de formidable. Mais en fait, concrètement, ça ne marche pas si c'est fait comme ça.
Vous faites quand même, que ce soit Thibaut Richon ou toi, Fabrice, vous faites des choses, des métiers formidables, vous faites des choses formidables, mais effectivement, si la personne n'est pas préparée à recevoir ça, bah c'est sûr que ça ne fonctionne pas,
non.
En fait.
Non.
Alors, vous aurez fait un super travail, mais la personne, elle ne pourra pas s'accepter, en fait.
Exactement.
Et ça, c'est plus compliqué, d'où l'intérêt d'avoir un bon suivi psychologique. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas obligatoire. Il faut aussi que la personne, elle accepte ça. Et c'est aussi très compliqué, en fait,
oui, d'accepter. Oui, et puis aussi, si la personne est dépendante en EHPAD, la mobilité est complexe, le personnel, il faut qu'il soit formé à ça. Donc la prothèse, si elle est mal gérée, si elle est collée, par exemple, c'est un collage quotidien. Il faut que tous les jours, ce soit nettoyé, enlever la couche de colle précédente, renettoyer cette prothèse, nettoyer la peau correctement, remettre... Il y a tout un protocole qu'on explique. On a créé des vidéos avec des petites motions pour que les infirmières puissent aller avec leur smartphone visualiser directement comment ça se passe.
Mais parce que ça ne fait pas partie de leur formation ?
Pas du tout.
Ah oui, donc il y a quand même un réel problème aussi. Ça veut dire que les infirmières, qu'elles soient en EHPAD ou pas, même en libéral, elles ne sont pas formées à ça.
Non.
Mais c'est compliqué, en fait.
C'est compliqué. On a un gros travail à faire dans les IFSI. On a un gros travail à faire dans les internats de médecine. On a un gros travail d'information à faire auprès de tout le personnel de santé. Parce que, oui, on est peu... Oui, on est méconnu, mais ça touche quand même. Enfin, on va parler de chiffres, mais en gros, moi, sur mon activité qui est basée essentiellement sur le bassin Nouvelle-Aquitaine et un peu l'Occitanie, parce que je me déplace quand même beaucoup, on est deux avec ma collègue Morgane qui est à 100% du temps à Bordeaux. Chez Thibaut, d'ailleurs, on est en colocation dans son atelier. On a pareil à peu près, pour ma part, entre 80 et 100 patients chaque année. Donc si vous multipliez ça par le nombre de professionnels, on est déjà à 1000 patients,
oui,
appareillés sur le territoire.
Plus les Outre-mer, parce que quand on s'est inscrit, tu étais en mission...
C'est sous-estimé, parce qu'il y a des laboratoires qui ont plus de volume de travail que moi. Hein. Moi, je suis, on va dire, un petit artisan. Mais... ça voudrait dire qu'en fait, il y a à peu près entre 1000 et 1500 personnes qui ont besoin d'une épithèse tous les ans et dont personne n'en a entendu parler. Ni les IFSI, ni les écoles de médecine. Alors, il y a même dans les spécialités chirurgicales avec lesquelles on travaille, en cinquième année, en internat, ils ont 2-3 lignes sur les épithèses. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des staffs, ce qu'on appelle des staffs dans le milieu médical. Donc on va faire de l'information auprès des internes tous les 6 mois dans les CHU, parce que tous les internes sont renouvelés, ils font des stages, ils bougent de CHU en CHU. Et donc, qu'ils aient au moins une vision de ce que c'est que notre métier. Et ils vont être forcément confrontés à un patient un jour qui aura besoin d'une épithèse. Oui. Et s'ils n'ont pas eu la moindre formation là-dessus, ou ne serait-ce que visuellement, qu'est-ce que c'est qu'une épithèse, on va dire, correcte, ils auront bien du mal à aiguiller le patient. Hein.
Et ça, et puis il faut surtout aussi qu'ils soient formés à le suivi, mais on va dire l'entretien, en fait.
Ils sont amenés à manipuler un petit peu, bon.
C'est trop peu.
Trop peu. On fait beaucoup de déplacements, c'est-à-dire qu'on va dans les hôpitaux, même pour les blocs opératoires, les aider à poser des implants, parce on peut maintenir ces prothèses par des implants, comme des implants dentaires, qui sont spécifiques à l'épithèse. Il faut former les IBOD, c'est-à-dire les infirmières de bloc opératoire, à ce matériel, parce qu'elles ne le voient pas tous les 4 matins. Donc, on est sur place. Il faut avoir des conventions avec les hôpitaux pour pouvoir rentrer dans les blocs opératoires. Ça demande tout un travail dont personne n'est au courant, en fait.
D'accord. Ouais, ouais. C'est hyper compliqué. Alors que ça change la vie des personnes, malgré tout. Enfin, quand elles sont prêtes, en tous les cas.
Si tous les facteurs sont réunis, ça fonctionne.
Ok. Donc, du coup, les médecins, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas tellement ta spécialité.
Les chirurgiens spécialisés en...
Donc les maxillofaciales.
Maxillo, otorino, plasticien et ophtalmo. Ce sont les 4 professions de chirurgie, de spécialité chirurgicale qui nous confient leurs patients. Ils sont un peu sensibilisés, et puis ceux qui sont en CHU, en tant que praticien hospitalier, ils sont habitués parce qu'ils ont des patients qui... Mais un médecin généraliste... S'il n'a pas été confronté dans sa patientèle à quelqu'un qui est porteur d'une prothèse faciale, il n'en aura peut-être jamais entendu parler, à part dans les films sur les poilus, quoi.
Oui, mais c'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps.
Et c'était pas forcément la même technicité.
Non, mais on peut retrouver des fabrications aujourd'hui qui ont traversé le temps et qui sont tout à fait honorables, réalisées à l'époque. Il y a dans la Somme le mémorial de Péronne, par exemple. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, il y a un musée incroyable sur les et il y a toute une partie sur les prothèses ortho, donc membres et aussi faciales réalisées par des professionnels en 1920 qui sont toujours magnifiquement, elles sont intactes tant en couleur qu'en état, quoi.
Eh oui. Ah, c'est... Ça donne des frissons, tout ça. Alors, combien ça coûte une épithèse ?
Alors, ça coûte Alors, on a la chance inouïe. Donc, je dis, c'est une chance et surtout quelque chose qu'il faut préserver au maximum. Les professionnels de l'appareillage en épithèse sont libres de devis. C'est-à-dire qu'on établit un devis avec une demande d'entente préalable. Les caisses de sécurité sociale du régime général. Les mutuelles ne rentrent pas en jeu, j'espère encore pour longtemps, mais c'est de moins en moins vrai pour plein d'autres secteurs. Ne rentrent pas en jeu. Donc c'est le régime général qui rembourse ces épithèses. Les patients n'avancent aucun frais et on va dire que ça peut aller d'un devis de 2 500 € à 10 000 euros.
Il n'y a pas,
suivant le temps qu'on va consacrer à ce travail, suivant le nombre de pièces qu'il y aura à mettre à l'intérieur. Les pièces implantaires, on va les acheter, puis on va les refacturer derrière. Donc tout ça, ce n'est pas du travail qu'on va facturer, c'est juste de la redistribution de matériel. On collecte de la TVA, donc vient s'ajouter là-dessus de la TVA, etc., etc. Donc ça peut, par exemple, sur une prothèse très courante qu'on va avoir à réaliser, par exemple un nez avec deux aimants qui est maintenu par deux aimants, on est sur un devis à 4 500 € hors taxe, ce qui va comprendre à peu près tout notre travail, parce qu'on n'a pas ça coûte cher, ça peut paraître comme ça énorme, mais ça couvre l'ensemble de notre activité, c'est-à-dire le avant, tous les déplacements qu'on va réaliser, qui ne sont pas facturés. Moi, je ne peux pas établir d'acte, même de consultation. Je n'ai pas d'acte de consultation, ça n'existe pas. J'ai un code de fabrication et de pose, c'est tout. Et avec ça, il faut que je puisse établir toute une prise en charge globale pendant l'année ou les deux années à venir. Donc, s'il y a besoin de faire des retouches, etc., eh bien, il faut que ce soit compris dedans. Donc, je suis obligé d'établir un devis assez global qui va couvrir tout l'ensemble des frais.
D'accord. Et bon, du coup, on a vu hein, que cette épithèse, voilà, on l'enlève, on la nettoie, etc. C'est une question subsidiaire, on va dire. Ça a une durée de vie de combien de temps, une épithèse, en fait ?
Ça a une durée de vie qui va dépendre et de la manière dont elle est fixée sur le visage. Si elle est collée, elle va durer moins longtemps que si elle est sur implant, avec des aimants, parce que la colle va abîmer le matériau. La manipulation quotidienne pour enlever cette colle et remettre de la colle va abîmer le matériau. Elle va s'user beaucoup plus chez un couvreur zingueur qui va sur le toit des maisons tous les jours.
Avec les intempéries,
avec les UV, etc., etc., que chez un petit papy ou une petite mamie qui est dans son petit canapé
tranquille.
Là, évidemment, l'usure ne sera pas la même. Donc, là aussi, on n'a pas de distinction entre ni de localisation, ni d'utilisateur, ni de manière dont c'est fabriqué ou posé ou maintenu, on va dire. Donc, c'est le même prix, enfin, c'est le même la même enveloppe pour chaque prothèse, alors qu'on devrait pouvoir distinguer une épithèse qui va être maintenue sur des implants d'une épithèse qui va être collée. Effectivement, la durée de vie ne sera pas la même, mais ça, aujourd'hui on ne peut pas le faire, il n'y a pas de codage pour ça. Donc vous dire combien de temps ça va durer, eh bien le plus longtemps possible, j'espère, pour les patients. Et quand c'est abîmé, on recommence.
D'accord, le même processus.
On recommence parce qu'on garde les moules, on est tenu de garder les moules dans lesquels sont fabriquées ces prothèses pendant au moins 10 ans. La durée de vie d'un moule en plâtre, il n'est pas forcément de 10 ans, mais on arrive à les maintenir quand même. Et donc, quand il y a besoin, on recommence la prothèse et elle n'est pas refacturée, elle est refaite.
Là, elle n'est pas refacturée.
Non. Entre deux prises en charge, on peut refaire des coups. Ça m'arrive de faire une teinte d'hiver, une teinte d'été, par exemple, pour les gens.
D'accord.
Ou je vais demander à la Sécurité sociale de prendre en charge une épithèse maintenue par de la colle. Et puis, en fait, le patient, lui, il voudrait que ce soit accroché sur ses lunettes parce que c'est plus facile quand il a de la famille qui vient, il n'a pas le temps. Donc, eh bien, on va faire une deuxième prothèse. Et cette prothèse, elle ne sera pas facturée. C'est à mon bon vouloir. C'est parce que j'ai envie que les gens qui viennent me voir, ils aient une qualité de vie.
Okay. Donc,
ça dépend de chaque professionnel.
Ok, chacun.
Bien sûr, je peux très bien réaliser une prothèse qui va durer 3 années. Elle sera épaisse, elle se verra, mais elle va durer 3 années. Mais elle sera intacte au bout de 3 années. Si plus on va être esthétique, plus on va être fondu.
Ça sera fin, oui.
Eh bien, plus ce sera fragile aussi.
Mais oui, du coup. D'accord, merci. D'après toi, Fabrice, est-ce que c'est un métier d'avenir ?
Eh bien, je pense que c'est un métier d'avenir parce que on n'a pas encore, malheureusement, les reconstructions faciales sont un peu. Alors, même s'il y a des progrès énormes, surtout dans le terme de d'impression cellulaire, je pense que c'est plutôt vers là que, pendant des années, les chirurgiens ont réussi pendant quelques temps à faire ce qu'on appelle des greffes de visage. Je sais pas, on se rappelle peut-être tous de cette patiente qui avait été mordue par son chien et.
Mais oui, il y a une certaine époque où on était beaucoup mordus par les chiens.
Eh bien, tous ces patients sont considérés, une fois qu'ils sont greffés, comme des patients. Donc, ils deviennent tous immunodéprimés parce qu'ils ont un traitement anti-rejet. Donc, aujourd'hui, ils ont tous développé une pathologie.
D'accord.
Carcino. Et ils sont tous décédés. Quasiment. Donc les chirurgiens ont dit, on ne peut pas, pour une réparation traumatique, rendre malade nos patients.
Mais non, ce n'est pas possible.
Donc les greffes de visage, comme elles étaient réalisées il y a une dizaine d'années, ont été stoppées. Donc on s'est retrouvés, nous, avec une masse de travail d'un coup à reprendre, beaucoup de patients à appareiller. Parce qu'il y a eu ce frein. Mais je pense que l'évolution sur les traitements anti-rejet va faire qu'on aura, j'espère, pour tous les patients mutilés, le choix de faire une reconstruction viable. Aujourd'hui, la reconstruction faciale, c'est extrêmement complexe. Une zone plane, les chirurgiens sont tout à fait capables de faire des merveilles sur des zones, on va dire, avec une géographie plutôt plane, dès qu'on est sur une architecture comme le nez ou les oreilles, où il y a une ossature cartilagineuse, avec en plus, sur un nez, ben, la fonction de respirer. Donc il faut que l'air sorte. Ça veut dire qu'un patient qui va être reconstruit chirurgicalement avec une rhinoplastie de sa pyramide, ça fonctionne, mais il va falloir qu'il porte ce qu'on appelle des conformateurs narinaires pour maintenir les narines écartées pour que ça ne se referme pas. Donc il y a tout un tas de complexités mécaniques, physiologiques qui font que aujourd'hui c'est difficile de fabriquer, pour les chirurgiens, de reconstruire des parties du visage complexes. Donc c'est plus simple de faire une prothèse, même d'attente. On a des résultats esthétiques qui sont plutôt assez intéressants, et un retour à la vie sociale, ce qu'on disait au départ, beaucoup plus rapide.
Mais oui, parce que ça, c'est vraiment important. C'est vrai que... Et puis, comme on dit, le nez, c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça parle d'elle-même. Cette expression parle d'elle-même.
Complètement.
Et effectivement, là, on est en période d'hiver. Donc, on a tous peut-être des foulards ou des choses comme ça qui nous cachent. Mais c'est vrai que sinon, c'est la première des choses qu'on voit, effectivement. Et souffrir du regard des autres, c'est juste horrible, en fait.
Mais paradoxalement, vous parliez de ça, mais tu parlais de ça, la période du Covid avec le port du masque obligatoire, ouais, a été, pour beaucoup de patients mutilés à la face, une période plutôt assez simple.
Mais oui, du coup.
Parce qu'ils pouvaient se cacher, ouais, complètement derrière un masque qui montait assez haut. Et donc, tous mes patients amputés du nez, eux, ils trouvaient que c'était très bien cette période, en fait. Hormis le fait qu'évidemment, c'est bien sûr que le Covid, ça faisait peur, mais ils étaient plutôt à l'aise en société, du coup.
Bah oui, eux, pour le coup, oui, ça les gênait moins, oui, forcément. Alors, on va passer à notre troisième pause musicale, mais aujourd'hui, la troisième pause musicale, elle va se faire en direct. Fabrice est venu avec son handpan, et du coup, il va nous jouer un petit morceau.
Bon, je vais tenter de faire quelque chose, mais c'est un peu hors cadre de mon activité, mais ça fait partie quand même du bien-être, c'est-à-dire que pour appareiller correctement et recevoir toutes ces informations complexes, parce que tous ces gens dont on s'occupe, ils ont besoin de relarguer leur sentiment d'injustice, quoi, on va dire. Soit on est super fort, mais ça n'existe pas. Donc il faut des moyens d'évacuer. Donc ça peut être le sport ou autre. Et moi, j'ai trouvé un moyen plutôt assez apaisant, c'est de lier ma passion pour la musique avec un instrument qui s'appelle le handpan. Donc je vais essayer de faire.
Non, tu vas pas essayer. Tu vas réussir.
Quelques petites montées et descentes de gamme.
Allez. Alors il s'installe, bien sûr, parce que faut être à l'aise pour jouer de cet instrument. Donc le temps qui s'installe, sachez que vous allez pouvoir réécouter l'émission sur le site de O2Radio.fr dès la fin de l'émission. Et je vous laisse avec Fabrice.
Avec plaisir.
C'est très doux comme son. Ça permet de...
C'est très doux et puis ça fait évacuer beaucoup de choses. Voilà, après, il faudrait faire une émission rien que sur cet instrument.
Ah bah écoute...
Qui est utilisé en musicothérapie, beaucoup.
Ouais, bah oui, mais c'est tellement apaisant et ça fait du bien. Et comme tu dis, ça permet d'évacuer beaucoup de choses. Donc comme je l'ai dit, on va pouvoir retrouver l'émission sur le site de Eau de Radio dès la fin de l'émission. Je te remercie Fabrice d'être venu nous parler de ce métier d'épithésiste. Donc on a bien compris que c'était pour les prothèses faciales, donc des prothèses de peau.
Oui.
Aussi, c'est important. Alors moi j'ai connu ce métier grâce à Thibaut Richon qui était venu dans l'émission et qui nous a parlé donc, de son métier lui d'oculariste. Donc c'était les prothèses oculaires. Et quand il m'a dit « Ah oui, moi je connais un épithésiste », j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce métier ?» Et bon, j'avais fait le rapprochement épithélial, donc la peau, et du coup voilà, les prothèses. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile quand on dit aux gens « Ah, mais je vais recevoir dans l'émission un épithésiste ». Ils nous regardent tous en nous disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc voilà, je suis ravie d'avoir mis aussi ce métier en lumière parce que, bah, effectivement, vous n'êtes pas nombreux. Et c'est important voilà, qu'il se développe, mais qu'il se développe bien.
C'est ça.
J'ai vu que tu étais aussi diplômée d'un diplôme universitaire.
Oui, c'est aujourd'hui la seule voie d'entrée.
Ouais.
Pour exercer. Diplôme universitaire qui se passe à la Pitié-Salpêtrière,
à Paris,
l'Université de la Sorbonne, et qui existe depuis, on va dire, une quinzaine d'années aujourd'hui, et qui est stoppé depuis 2 ans, mais volontairement, on a stoppé avec mon confrère Brice Blanc, avec qui je collabore, qui est installé sur Paris et qui aussi est direct. On va dire le responsable du projet études au niveau de la formation. On intervient avec mes confrères au sein de la formation et ce diplôme est en train de changer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme d'État comme les infirmières, c'est un diplôme d'université mais qui ne donne pas qui ne donnait pas la formation suffisante pour exercer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé sur le territoire avec des professionnels qui n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire qui sont sortis avec le diplômé de cette formation, qui sont allés voir les ARS et qui ont obtenu un numéro donc de professionnel de santé, un numéro ce qu'on appelle ADELI. Aujourd'hui, c'est RPPS, ça n'existe plus pour nous, on est au registre des professionnels de santé. Et donc, en fait, ils se sont installés avec un numéro de professionnel de santé, ils ont commencé et ils sont installés. Aujourd'hui, on peut pratiquement plus rien faire. Donc on a stoppé ça et pour que bien les professionnels formés, on puisse d'abord définir la qualité de la prestation et aussi le nombre de candidats sur le territoire. Donc ça sera une formation, j'en parle rapidement, mais qui va se dérouler sur une année théorique, non diplômante à la fin de l'année, et qui sera commune aux ocularistes d'ailleurs. Hein, on va faire la même formation initiale, un tronc commun d'un an, toujours à la Pitié-Salpêtrière. Et ensuite, les professionnels qui veulent exercer devront trouver un travail dans un laboratoire. Et à ce moment-là, il y aura un tuteur universitaire, un chirurgien, un médecin.
Pour valider le diplôme.
Et au bout de 3 années, il présentera son activité comme un book. Avec tous ces travaux, il y aura un protocole, enfin tout un cahier des charges à remplir, tant par l'employeur que par l'élève, et il présentera ses travaux et ça sera validé par la profession et par l'université hein, de la Pitié-Salpêtrière, de la Sorbonne.
Ok, donc le tronc commun en fait, et au bout d'une année en fait, il pourra choisir soit il se dirige vers l'oculariste,
exactement,
soit il se dirige vers l'épithésiste. Ok. Et à la base, parce que bah pareil, Thibaut Richon me l'avait dit, en fait, à la base, vous êtes prothésiste dentaire.
Pour beaucoup, pas tous. Hein. Certains viennent des arts médicaux, par exemple.
D'accord.
L'illustration médicale.
D'accord.
Voilà. Les beaux-arts.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, il y a vraiment plusieurs styles d'entrée, en fait.
Il y a plusieurs styles d'entrée.
À l'époque, on va dire. Aujourd'hui, parce que là, maintenant, ça sera l'université.
Non, ça, alors, ça sera... si vous voulez, pour travailler en tant que salarié dans un laboratoire ou de prothèse oculaire ou de prothèse faciale, il n'y a pas d'obligation de diplôme. Hein. C'est-à-dire que demain, Valérie, si tu veux venir travailler dans mon laboratoire et que je te forme, c'est moi qui estime que c'est tout. Mais par contre, pour t'installer en tant que professionnel de santé...
Il faudra
bien sûr qu'il y a un cahier des charges à remplir, quoi. Hein, et le diplôme, c'est une des parties du cahier des charges. Seulement, depuis des années, les professionnels qui se sont installés n'ont pris que celui qui les intéressait, c'est-à-dire le diplôme. Mais par contre, les années de formation derrière, on n'en a pas tenu compte. Les ARS sur le territoire complet, national, n'ont absolument pas vérifié qu'il fallait tant d'années d'exercice, plus le diplôme, par exemple, pour s'installer.
Et oui, donc en fait, les gens n'avaient que la théorie, mais pas la pratique.
Exactement.
Ça ne fonctionne pas.
Ça marche pas bien.
Non, on est d'accord. Du coup, moi, pour terminer l'émission, je vais parler de quelque chose qui me touche particulièrement. Alors moi, je n'ai pas le droit de donner mon sang, mais sachez que donner son sang, ça sauve quand même 3 vies. Donc demain, nous serons donc le mercredi 18 décembre pour aller donner son sang à Bazas, à la salle des conférences, de 9h30 à 13h, puis de 15h à 19h. Que jeudi 19, on pourra aller le donner à Saint-André-de-Cubzac, à la salle du Mascaret, de 15h à 19h. Toujours jeudi, on pourra le donner à la salle des fêtes de l'Abrais des Saint-Selves, de 15h à 19h. Le 20 décembre, on pourra aller le donner à Saint-André-de-Cubzac, à la salle du Mascaret, de 15h à 19h. Toujours vendredi 20 décembre à la salle des fêtes de la Cano de 15h à 19h. Le 23 décembre, on pourra aller donner à Pauillac, à la salle des fêtes du Pouyallé de 15h à 19h. Toujours lundi 23 décembre, au Bouscat, à la salle Hermitage Compostelle de 15h à 19h. Et puis si on est motivé, et j'espère, le mardi 24 à la Bègle, à la salle Jean Lursa de 8h30 à 12h. Il n'y aura pas d'émission à ta santé pendant les vacances de cette fin d'année. Donc on reviendra en 2025, le mardi 7 janvier. Et je recevrai Nicolas Tremblay qui va nous parler de médecine chinoise. En ce moment, il y a la campagne de vaccination pour ceux et celles qui le souhaitent contre la grippe saisonnière. Attention à la recrudescence de Covid et de coqueluche. Je remercie mon amie Sandra d'être venue pour faire la technique. Merci, un grand, grand merci. Merci à toi, Fabrice, pour ce moment aussi de parler de ton métier, mais ce moment aussi musical, puisque c'est la première fois dans l'émission où nous avons un direct avec quelqu'un qui nous joue de la musique. Un grand merci. Je te souhaite un bon retour aussi chez toi, dans le sud-ouest, mais plus bas que nous,
oui,
en fait.
Profond.
Profond. Ah, je n'ai pas dit ça quand même, mais enfin, peut-être avec plus de soleil aussi.
Je ne sais pas, on va voir, oui, j'espère.
Merci à toi, et puis bonnes vacances à tous.
Bonne fête.
Et on se retrouve, bonne fête également, et on se retrouve au mois de janvier.
Sky, 'cause you're a sky.